Merci Isabelle. On vit sur cette terre des moments, mais on sait qu'on a une demeure en haut qui est pour toujours et qui est, c'est ça notre espérance, c'est ça qui nous pousse. En tout cas, sur la terre, on vit des beaux moments. Moi, j'arrive de vacances, ça se voit, j'ai encore les cheveux délavés par la mer et le soleil, les pantalons délavés, tenue d'été. Puis on nous dit, on va faire un message de rentrée. Alors, c'est vrai que de passer des vacances à la rentrée, c'est une sacrée transition. Et ce matin, c'est ça dont j'aimerais parler avec vous, une sacrée transition. Moi, comment je me sens quand on parle de rentrée, un peu comme ça. Ouais, c'est ça, moi, vous savez, forcé, bon, c'est la rentrée. Puis quand je pars de la plage, pour toujours, il faut retourner, soi-disant, dans la vraie vie. Moi, j'ai tendance à croire que la vraie vie, c'est la plage, les vacances, puis l'autre, c'est la vie... C'est la vie moins facile. C'est la vie qui nous ramène dans des moments plus, souvent plus sérieux, plus sévères, où il se passe des choses qu'on ne voudrait pas. Mais j'ai vécu ça à chaque rentrée de ma vie, depuis que je suis tout petit. L'impression que papa et maman devaient me traîner à l'école, puis chaque fois que c'est la fin des vacances, je voudrais me cacher. En hiver, on a le privilège, Isabelle et moi, de partir un mois en Thaïlande. Quand arrivent les derniers jours, je regarde tous les endroits sur la plage où je pourrais me cacher. On ne me trouverait pas pour que je ne rentre pas dans le froid du Canada, arrivé au mois de mars où c'est encore couvert de neige et où il fait moins 30. Et j'aimerais tellement rester encore à la chaleur. Voilà, je vis pas toujours facilement les rentrées. Je trouve que c'est des transitions qui ne sont pas toujours faciles. D'ailleurs, les transitions sont des moments qui ne sont pas toujours faciles. Et je me réjouis qu'on puisse penser, que vous puissiez penser un message de rentrée, de nous accompagner, de passer d'une situation à une autre. On a été tellement bien accueillis hier soir, et on avait le cœur plein avec l'équipe des stagiaires, puis de vivre ce moment avec vous, c'est un immense privilège pour nous. On vous remercie beaucoup, on reçoit énormément dans nos cœurs. Donc, vivre une rentrée avec vous, finalement, c'est plus un bonbon, c'est plus un cadeau. Donc, merci d'atténuer cet effet-là où on doit me traîner avec mon cartable pour vivre la rentrée. Merci de pouvoir le vivre avec vous. Et ça, c'est vrai que c'est précieux. Toutefois, moi, quand j'entends l'idée de « passons à l'autre bord », ça veut dire que c'est ça la rentrée. Hein? C'est souvent « hé, t'es d'un côté de la vie, on va passer à l'autre bord ». Et Jésus nous invite à une croisière. Toi, là, Alfred, tu disais que j'ai de la bouteille, j'ai de l'expérience. Ce qui fait que quand Jésus m'invite à une croisière... À cause de l'expérience, je sais qu'il va y avoir une question de vie et de mort là-dedans. Je sais que lui, il va se mettre à dormir, faire sa sieste magistrale, que nous, on va être menacés de toutes sortes de choses, qu'on va avoir les peurs de nos vies, que certains vont avoir des coliques, des diarrhées, des vomissements, le mal de mer. Puis Jésus lui semblera pas concerné. Et c'est pour ça que quand il me propose une croisière, tu sais, c'est pareil, on passe, on vit la vie chrétienne de gloire en gloire. De gloire, gloire en gloire. Oui, la bouteille fait que tu sais que, qu'est-ce qui précède la gloire? Ah, c'est pour ça, de gloire en gloire, c'est comme tu dis à quelqu'un, t'as vu là, on est en haut d'un sommet. Eh bien, on va aller à un sommet encore plus grand. Puis le naïf, il dit, ouais! Mais celui qui connaît la montagne, il sait qu'à moins d'être un funambule, tu ne passes pas d'un sommet à un sommet sans descendre dans la vallée. Tu comprends? C'est pour ça que quand il dit « passons à l'autre bord », il y a 30 ans, super, super joie. Aujourd'hui, tu dis « oh, qu'est-ce qui nous attend encore ?» De gloire en gloire, oui, oui, je sais. Mais l'humiliation, l'humilité précède la gloire. De sommet en sommet, ouais, mais quand je traverse la vallée, c'est pour ça que les transitions pour moi... C'est pas toujours ça. Moi, plus ça va, plus j'aime les choses simples de la vie. Moi, je suis pour qui on vote pour un 32 août.
Tu restes la journée la plus longue de l'année. Tu dures 3 mois. Moi, j'aimerais un 32 août tout le temps. Mais il y a les transitions. C'est-à-dire, Philippe s'améliore pas avec l'âge. C'est certain, je ne dois pas m'améliorer. Peut-être que je lui laisse plus de place, mais moi, mon humanité, elle est ce qu'elle est. Des fois, je sais qu'on doit vivre des transitions dans la vie. Alors j'aimerais regarder avec vous ces transitions. Il y aura deux parties dans ma conférence, mon message ce matin. Les transitions, on va regarder que la vie humaine, finalement, c'est une succession de transitions. Que l'histoire et l'actualité nous amènent toujours à voir que...
On ne fait que de transiter d'une période à une autre et que l'actualité où nous sommes aujourd'hui de façon mondiale comme de façon personnelle, comme dans nos églises, comme dans nos sociétés, on est dans une période de transition. Et les transitions nous rendent très fragiles. Dans les transitions, on perd nos repères. Avant, on savait. Maintenant, on partage notre ignorance. Même nos dirigeants politiques, c'est incroyable qu'est-ce qu'ils exposent leur ignorance dans ce temps-là. Puis certains ont l'humilité juste de le reconnaître, d'autres essayent de le masquer. Il est libre masque, mais il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Et puis... La Bible est une affaire de transition. On passe d'un moment à l'autre. Je voudrais vous raconter simplement l'image de... On va parler du crabe, on va parler de Newton, Einstein, bien sûr on parlera de Jésus. Puis surtout, mon histoire ici, biblique, c'est l'histoire de Élie. Élie qui vit une transition pour l'amener dans un repos. Comment cet homme qui sert Dieu, qui est passionné, qui a servi, qui a vu des miracles, arrive à un moment donné de sa vie où il sait qu'il... Une nouvelle saison, une nouvelle mission, une nouvelle période arrive. Comment Élie va traverser cette période de transition où il perd tous ses repères, où il est fragilisé pour entrer dans une nouvelle période de sa vie? Comment nous pouvons apprendre de l'histoire de cet homme? Et comment est-ce qu'on peut, au travers de ça, retrouver notre humanité ou nous réconcilier avec notre humanité fragile? Retrouver le silence et le murmure de Dieu. Retrouver quelque chose de simple. Toi, j'ai aimé que tu parles de la simplicité. Quelque chose qui est moins marketing dans l'Évangile. Quelque chose qui est moins standardisé. Qu'on peut mettre sur toutes les tablettes des supermarchés de l'Évangile à travers la planète. Mais si on perdait nos supermarchés de l'Évangile et qu'on revient juste à la manne. La manne, ça veut dire quoi? La manne, vous savez, le mot manne en hébreu, manhu, ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? C'est une question. Si tu veux la manne, tu ne donnes pas de réponse, tu poses une question. Sinon, tant que tu as la réponse, tu n'auras pas de manne. Retrouvez le sens de notre mission. Que fais-tu là, Élie? Puis retrouve tes alliés. Alors, commençons par ceci, la vie humaine. La vie humaine, c'est vraiment des transitions successives.
C'est le passage d'une situation à une autre. D'abord, tu as la vie intra-utérine. Tu es dans le ventre de maman. Tu te nourris par téléphone ombilical, et puis tu es en sécurité, c'est une chose. Puis d'un coup, tu quittes ça, première transition, tu quittes le ventre de maman, tu arrives dans ce monde. Et on dit, est-ce que tu vas bien? Bienvenue à la vie sur Terre. Et toi, tu réponds, oui!
Bienvenue chez les humains, tu parles notre langage. Tu as commencé ton premier cri, tu vas râler, tu vas passer ta vie à faire ça. On te reconnaît, tu es des nôtres. Parce que la première parole que tu dis, c'est si tu dis ça, ah, il est des nôtres. Hein? Tout le monde, il sait râler. C'est le premier truc qu'on fait. Pourquoi? Transition. Je ne voulais pas quitter le ventre de maman. Mais tu vas non seulement quitter le ventre de maman, mais ensuite, maintenant, il faut apprendre à marcher. Tu as quitté les bras de maman. Tu veux les bras? Non, tu marches. Ah, les bras? Tu marches. Tu apprends à marcher. Une fois que tu as appris à marcher, on t'applaudit, mais ce n'est pas fini. Maintenant, tu vas quitter la maison. On va t'envoyer à la garderie, à l'école. Quand le temps que tu t'y fasses, après quelques vomissements, on te passe à la grande école. Où là, il faut que tu rentres, tu as des devoirs. Oh! Puis après, tu passes au collège. Ça change les règles. T'as un agenda. T'arrives au lycée. Ça change. Là, tu dois prendre des notes sans qu'on te donne un résumé. T'arrives à l'université. Ah, ça change encore tout, là. Là, t'aimerais donner des notes au professeur pour que ce qu'ils disent ait du sens. Hein? Puis, après ça, arrive le moment où tu tombes en amour. Parfois, tu te relèves. D'autres fois, ben, tu vas rester longtemps tombé en amour. Puis, arrive le moment de la transition. Mon petit, tu vas connaître le monde du travail, la vie professionnelle. C'est fini, s'amuser à l'université. Ah, parce que je m'amusais. Depuis que j'ai quitté les jupes de maman pour aller à la garderie, jusqu'à maintenant, et tout ce que j'ai bavé, et la physique, et la chimie, et les Einstein, et la philo, et je me suis amusé. Ah, tu vois, maintenant, tu vas en baver pour vrai, là. Le monde du travail, le monde professionnel. Dans le monde professionnel. Puis après, tu deviens propriétaire. Puis enfin, toi-même, tu fondes une famille. T'as les enfants. Oh, qu'ils sont mignons. Ouais, puis ils deviennent ados. Ils ont tout compris de la vie. Et toi, t'es un vieux con. C'est aussi une transition. Tu sais, le jour où t'as 40 et quelques, tu réalises que... Mais finalement, moi... Là, ce que j'ai autour de moi, il m'explique que j'avais jamais rien compris à la vie. J'avais une noisette. Je pensais que c'était un cerveau. Non, il semblerait que ce soit une noisette qui fonctionne là-dedans. Puis... transition, finalement, la période du ralentissement. Jusqu'au jour où la transition finale, comme Isabelle l'a raconté pour son papa, t'en vas vers l'éternité. Quel parcours! C'est la vie humaine, une vie de transition. C'est pas toujours facile, on est équipé à ça. Mais on est fragilisé à chaque période de transition. On est fragilisé. Et la rentrée, c'est un moment de transition. On passe d'une situation à une autre, mais la vie humaine est faite comme ça. Mais toute l'histoire de l'humanité est faite comme ça. Quand l'histoire
veut enfanter, quand l'histoire est enceinte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met toujours en confinement. À un moment donné, Dieu dit, il faut changer quelque chose sur la terre. Rassemble des animaux, toi, Noé, pendant une année et quelques, ils sont restés en confinement. Une année et quelques de confinement en tant que Noé. C'était long, hein. C'était long. En plus, confinement avec les animaux, c'est quand même moins drôle que confinement en église avec les humains.
Mais toutes sortes de choses arrivaient ici, puis enceinte. Chaque fois que l'humanité, chaque fois que la planète est enceinte de temps nouveaux qui vont arriver dans l'histoire, à chaque fois, une transition. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils dans ce monde. L'humanité était enceinte de quelque chose qui allait arriver. Il y avait des gens qui s'appelaient la tribu d'Issacar, ils avaient l'intelligence des temps pour savoir quand est-ce que le rouleau de l'histoire, le scénario. Dieu est un grand metteur en scène. Il a écrit sa pièce avant la fondation du monde. Et lui, il la déroule. Et de temps en temps, tu tires sur le rouleau. Et tu dis, ah, il est question de moi. Voilà, mon rôle, il est là, dans le rouleau du livre. Mais il y a des gens qui ont l'intelligence des temps pour savoir que là, il y a un bout de rouleau qui s'est déroulé. Il y a un autre acte, comme dans une pièce de théâtre. On parle des actes des apôtres, mais c'est les actes de théâtre. On continue la pièce, elle continue à se dérouler. Ils ont l'intelligence des temps pour savoir ce que nous devons faire. Jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, il en sera ainsi. Et quand on regarde l'histoire de l'humanité, quand la Renaissance est arrivée, il y a tellement de choses posées dans l'histoire humaine, avec l'imprimerie qui est arrivée après, au moment de la réforme. L'art est nouveau, on sent que la vie va se réinventer, l'ère industrielle, la vie va se réinventer. Le moment de la venue de Jésus, avec la paix romaine, avec la diaspora juive partout, avec la langue grecque qui était répandue partout, Dieu place toujours un décor pour dire, hey, l'humanité doit enfanter une saison nouvelle. Et c'est des périodes de transition. Alors quelque part, ça peut être un bon jeu. Au lieu de se prendre super au sérieux, d'être grave, on va aller regarder qu'est-ce que nous dit le rouleau du livre, comment Dieu le déroule, puis on va essayer de jouer à s'adapter, à rentrer dedans. Et effectivement, aujourd'hui, avec ce coronavirus, il y a un coronavirage. Parce qu'il y a un virage qui se prend. Le virus en soi, c'est rien. Comme chante Grand Corps Malade, si vous n'avez pas écouté son chant sur effets secondaires, écoutez-le sur YouTube, c'est génial d'inspiration. Grand Corps Malade, vous connaissez? Je préfère la version Grand Corps Guéri, mais on est tous boiteux quelque part. Hein. Et j'aime beaucoup la profondeur de ce gars-là. Et quand vous écoutez ça, il va nous montrer ce qui est en train de naître. Peut-être il y a des réalités qui sont enfantées dans cette période d'actualité dont on a besoin. La réaction de cette période de transition, ben, certains, comme le monsieur en haut, s'inquiètent énormément. La fille a l'air désabusée avec son cellulaire. Je ne comprends rien à ce qu'ils disent. Hydroxychloroquine, azithromycine ou non, hein? La potion magique ou pas? Je ne comprends rien à ce qui se dit. Puis, D'autres sont en train de s'engueuler. Oui, non, non, oui. L'agressivité qui est là dans les couples, dans les familles, dans les gens, ça brise des relations. Il y a des gens, si tu n'es pas hyper conformiste à ce que dit le gouvernement, tu es un ennemi. D'autres, si tu n'es pas hyper complotiste parce que tu as le charisme prophétique de comprendre tous les signes des temps, hein? Alors, du coup, à ce moment-là, vraiment, c'est que tu ne comprends rien aux voix de Dieu. Puis les gens se disputent, il y a une agressivité qui est là. D'autres se posent des questions, puis d'autres prient. Puis moi, j'ai l'impression que je fais un peu tout à la fois. Un peu tout à la fois, parce que je suis un petit peu perdu aussi dans cette période-là. Pas complètement, mais je suis simplement dans le point d'interrogation. Je dis, qu'est-ce que c'est, man who? Qu'est-ce que c'est que d'entrer dans cette nouvelle saison? Mais la Bible est remplie de périodes de transition. D'ailleurs, la création, on devrait dire les créations, puisque Dieu crée pendant 6 jours. Mais qu'est-ce qui se passe entre les 6 jours? Il crée le jour et il y eut un soir, il y eut un matin. Qu'est-ce qui se passe le soir? D'un sommet à l'autre sommet, d'une gloire lumineuse à l'autre gloire lumineuse, il y a une nuit. Il y a une nuit de l'âme, comme l'enseignait un certain Jean de la Croix. Certains qui ont envie de vivre les profondeurs des choses de l'esprit, lisez Jean de la Croix, vous allez voir ça. Quand il parle des nuits de l'âme, comme David dans les psaumes, hein, des moments sombres pour que la lumière arrive, parce qu'il y a toujours un soir et un matin, un soir et un matin. Pour qu'il y ait un nouveau matin, on passe par le soir. J'aimerais vous prêcher un évangile qui est toujours matin, 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 matin. Mais c'est pas ça, c'est il y a un soir et un matin, il y a un soir et un matin. Comment nous pouvons traverser des moments de soir sans perdre notre équilibre, sans perdre notre foi, sans perdre notre espérance, pour voir arriver un nouveau matin? Ça, c'est les leçons de la transition, c'est les leçons de la rentrée, c'est les leçons qui nous apprennent à faire comme Abraham, qui est parti d'Irak pour aller jusqu'en pays promis. Une transition, un changement de vie, changement de règles. Israël, la transition de partie d'Égypte pour aller au pays promis, partie de Babylone ensuite pour aller au pays promis. Puis ensuite, ils avaient la loi, mais à un moment donné, ils ont dit, la loi ne nous suffit pas, il nous faut des hommes qui sont des chefs, des héros. Ils ont eu les juges, puis les héros sont devenus des héros, ils ont demandé des rois. Donc Dieu change de régime, on passe une autre étape, une autre transition, un régime monarchique. Puis les rois, ça ne suffit pas, il nous faut maintenant des prophètes, des hommes et femmes porte-parole de Dieu qui arrivent, ils ont le message direct. Alors Dieu a envoyé les prophètes, puis ils se sont fait lapider, ils se sont fait scier comme Ésaïe, ils se sont fait persécuter jusqu'à ce que Dieu dise il faut un temps nouveau. C'est pour ça que Jésus nous dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Un temps nouveau arrive avec Jean-Baptiste et Jésus nous dit l'heure vient. Et elle est déjà venue. Ça veut dire, hop, encore une transition vers un temps nouveau. Toute la Bible est un parcours de transition en transition. À chaque fois, on est dépouillé dans la vallée et on va retrouver un nouveau régime pour apprendre les nouveaux codes, un nouveau langage, une nouvelle façon de faire. Tous les « je sais » basés sur « je sais parce que j'ai su dans le passé », tous ceux qui ont de la bouteille sont en danger d'être sous. En danger d'être plein de tout ce qu'ils ont appris et qu'ils ne savent pas désapprendre. L'humilité, c'est quoi? Vous savez, ce n'est pas de se sentir misérable, ça c'est trop facile. L'humilité, c'est d'avoir toujours plus de questions que de réponses toutes faites. Toujours d'avoir ma dose de questions plus grande, ma dose de soif plus grande que ma dose d'expérience. Et ça, ça se travaille de dire toujours, Seigneur, qu'est-ce que tu fais maintenant? Et bien entendu, la transition par excellence, c'est existant en forme de Dieu. Ah, quelle transition! Il a accepté de s'humilier lui-même, de descendre, de se rendre obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Le Dieu sans limite a accepté les limites d'un corps humain. Il a connu la fatigue, la soif, la faim, la solitude. Il a accepté cela, changer de condition. Et non seulement jusqu'à l'humanité, mais jusqu'à la croix et jusque dans le séjour des morts. C'est pourquoi, acceptant cette transition-là, parce que la transition vers la gloire, de sommet en sommet, de gloire en gloire, ça passe toujours par ça. C'est pour ça que la Bible nous dit, ayez en vous la tournure d'esprit qui était en Jésus-Christ. À chaque fois que vous voulez une gloire souveraine, rappelez-vous que si vous, le Seigneur vous parle d'un sommet, ça commence par la vallée. S'il vous parle d'élévation, ça commence par l'humilité. S'il vous parle de gloire, l'humilité précède la gloire. C'est toujours comme ça. S'il vous parle, on entre dans une phase nouvelle, réjouissez-vous. C'est vous, mais sachez que ce qui suit, c'est des larmes, de la fragilité. On ne va pas savoir où on en est vraiment. Puis tous les gros donneurs de leçons sont dangereux à ce moment-là. C'est l'humilité qui va nous garder dans la gloire et dans l'apprentissage et dans la transition dans laquelle le Seigneur va nous amener. Ça, c'est la plus belle chose. Lui humilié, enfermé dans un tombeau et ressuscité, élevé au-dessus de tout. Ça, c'est la gloire. Et c'est ça ce que nous allons suivre. C'est cette humilité qu'il a connue là. Alors, petite image qui nous aide beaucoup à comprendre ce dont il s'agit, c'est le fameux crabe. Quand vous promenez à Saint-Martin, mes enfants habitaient à Saint-Martin, ou bien vous pouvez voir ça au sud de la Californie, peut-être ici, mais ici je ne me rappelle pas avoir vu ça. Il y a des gros crabes qui sont forts parce qu'ils sont à la maison. La maison, c'est leur carapace, leur coquille. Mais un jour, le crabe grandit. Sa maison devient sa prison. Il va la craquer, il va mourir dans sa maison, ou alors il doit faire une transition. Il doit quitter sa maison, ses habitudes, sa sécurité, et il va se retrouver tout nu, vulnérable, en proie à n'importe quel rapace qui voudrait venir, ou oiseau qui voudrait venir le manger. Il a perdu sa coquille jusqu'à ce qu'il en trouve une autre. Et c'est cette nudité, cette vulnérabilité, cette fragilité-là que nous traversons dans les moments de transition. C'est pourquoi si en ce moment, tu te sens fragile dans ta vie, tu sens qu'il y a une fragilité au-delà du Covid, pour, contre, hydroxychloroquine, le problème n'est pas là. Comment on va traverser la transition? Je me sens fragile, Philippe. Je sais, c'est bon signe. C'est signe que tu acceptes de passer à une phase nouvelle dans laquelle le Seigneur t'invite à passer dans une nouvelle saison. Et dans cette phase nouvelle, tout ce qu'on a appris, toutes les règles de vie vont changer. Un petit exemple ici, Newton. Si vous rappelez de vos cours de physique ou chimie en physique, on nous apprenait la leçon de Newton, la loi de la pesanteur. Vous vous rappelez l'histoire des pommes, la pomme qui tombe pas loin de... Toute pomme, il va dire, regardez, ça, donc, puisque toute pomme tombe, quand elle se détache du pommier, elle tombe. C'est donc une loi, parce que ça arrive tout le temps. Ça s'appelle la loi de la pesanteur. Vous vous rappelez de ça? La loi de la pesanteur, et on nous a dit, c'est universel. Arrive, 150 ans plus tard, Albert, qui lui nous dit, peut-être vous rappelez la formule, qui nous dit que toute matière est composée d'énergie. Ce qui veut dire que si cette énergie-là est placée plus près de la lumière, par exemple plus près du soleil, elle n'obéit plus aux mêmes lois. C'est-à-dire que si vous mettez une pomme, pour rendre ces choses plus claires et simples, vous mettez une pomme en dehors de l'atmosphère terrestre et vous la lâchez, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne tombe pas. Elle flotte. Pourquoi? Parce que ce qu'on avait appris de Newton est valable dans un domaine d'application, mais sorti de ce domaine-là, les règles changent. Mes amis, dans la période où nous sommes, tout ce que nous avons appris devra être éprouvé pour savoir si ça fonctionne encore dans le nouveau domaine dans lequel on rentre. Parce que dans une nouvelle saison, dans une rentrée, des choses nouvelles arrivent, des lois nouvelles arrivent, les règles de vie ne sont pas les mêmes. Moi, j'aime la manne, disait cet Israélite qui avait vécu 40 ans dans le désert. Il arrive avec Josué, il dit « mangerai que de la manne ». Mais il n'y en a plus. Nouvelle période, nouveau domaine, nouvel mode d'alimentation, cultive. Je veux de la manne. Mais tu vas jeûner longtemps, parce qu'il n'y en a plus de manne. Simplement qu'un nouveau domaine nous amène à de nouvelles ressources, de nouvelles règles d'application. La transition change ce que nous pensions connaître. Et il en est de même pour l'Église. L'Église, le passons à l'autre bord pour l'Église. Mais c'est quoi l'Église? Est-ce que c'est possible qu'on fasse une Église par Zoom de temps en temps, puis une Église par écran? Écoute, Ecclesia veut dire qu'ils se rassemblent, trouvent toujours les moyens de se rassembler en dehors d'un système humain sécuritaire. Quand il a fallu le faire dans les catacombes et les tombeaux de Rome, ça s'est fait. Quand il a fallu le faire dans les déserts des Cévennes, ça s'est fait. Quand il faut le faire par écran, on le fait. À chaque fois, la vie de Christ vient vivifier l'Église de Jésus et les passionnés de Jésus pour toujours trouver les nouvelles formes qui fait qu'elle restera Église. Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Elle restera vivante parce qu'il y a des hommes et femmes comme vous et moi, passionnés, qui font qu'on l'accueille, on reçoit, on découvre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui la facilité de la technologie est une aide, et d'autres fois, comme je le disais tout à l'heure, on va retourner à des formes de simplicité, parce que la technologie c'est fantastique, mais ça nous pousserait des fois à marketiser, si ça se dit, à faire du marketing de l'évangile. Puis la technologie, ça a quand même ses limites. Maisons connectées.
Calendar.
No meetings today. Remember, dentist at 9:30.
Fire off.
Fire off.
Open door.
Door open.
And we're going to do one more.
Fire. Open door.
Wrong voice command.
Open door.
Wrong voice command.
Open. Open door.
Repeat that.
Open door.
I didn't understand that.
Hey, open door!
Play on the floor.
Get on the floor, open the door! Open the door!
Error.
Hey, young, with a rock? Open door. Open door!
Alors je crois qu'avec cette Église mondiale tellement dans le marketing et la technologie, il se pourrait qu'on retourne à des choses extrêmement simples aussi dans les temps qui viennent, et à retrouver d'autres formes de vie. En tout cas, nous sommes dans l'interrogation de ce qui vient devant nous. Puis soyons ouverts, soyons humbles, soyons juste flexibles à dire « Seigneur, je veux apprendre de toi ». Il y a un homme qui va nous apprendre ici, c'est Élie. Avant de vous parler d'Élie, je vais vous raconter une histoire personnelle avant qu'on lise rapidement le texte de 1 Roi 19, puis qu'on arrive à la fin. Je voudrais vous raconter mon expérience d'Élie. Quand je suis rentré de Thaïlande cette année au mois de mars, on est arrivé le 12 mars, le jour où on devait commencer à faire la quarantaine, etc. J'avais une forme incroyable. Moi, j'étais super bien en dedans de moi. Alors, tellement régénéré que j'ai commencé, pour la première fois de ma vie, depuis longtemps, à négliger mon lundi, qui est un lundi de sabbat. Parce que je ne savais pas quoi faire, tout seul, enfermé chez moi, puis on fait quoi? Tout est fermé, je ne peux pas sortir. Alors, je commençais à travailler aussi mon lundi, qui est normalement mon jour sabbatique. Puis j'ai négligé ça, et je sais que le sabbat a été fait pour l'homme. Mais finalement, j'avais des opportunités, je faisais plus de profils Nova, plus de coaching, plus de conférences que jamais. Puis, je carburais, c'était grisant. Au début, c'était extraordinaire, c'est extrêmement rémunérateur. pas que financièrement, mais satisfaisant. Puis je carburais fort, puis je commençais même à entendre tellement de choses dans ma tête, parce que moi, je suis branché plein de pays. Mes enfants vivent en Thaïlande, mes fils. J'ai tellement d'amis en France que je m'occupe. Qu'est-ce qui se passe en France, au Canada? Puis à ce moment-là, j'ai un ami en Suisse qui vivait une immense division dans sa belle église, grande église. Puis j'étais assez près de ça. Puis en République centrafricaine, on soutient un pasteur qui venait de perdre sa femme quelques temps avant, puis a perdu son fils à ce moment-là, puis des preuves. Puis ça allait, je gérais, je prenais tout ça. J'en prenais tellement, ça se remplissait tout dans ma tête. Jusqu'à ce qu'arrive le mois de mai. Puis moi, généralement, un slogan qui pourrait me caractériser, c'est « En mai, je me suis planté ». Parce que la plupart des erreurs que je fais, ça arrive au mois de mai. Ce n'est pas parce que c'est le mois de la Vierge, je rassure les anticatholiques. C'est juste que c'est parce que je suis en fin d'année, et si je ne fais pas attention à mon mois de mai, alors là, je fais vraiment des églises. En mai, comme il disait,
messed up. I screwed up in not recognizing the perception.
J'ai merdé, quoi. Et moi, c'est ce qui m'arrive au mois de mai. Comment je peux reconnaître à ce moment-là, comme va pouvoir le reconnaître Monsieur Elie, les symptômes que j'ai une mauvaise qualité d'énergie? Moi, j'accélère. Quand je vais mal, j'accélère. Quand je vais mal, j'envoie tout l'élan en enfer. C'est terrible. Je vais mal, j'ai tendance à accélérer, à prendre les choses. Allez, on va accélérer. Je fais les choses de plus en plus vite, de plus en plus, parce que je me crois efficace. Imbécile, dans le calme et la confiance sera ta force. Ouais, mais j'ai l'impression que je dois avoir un petit plus par rapport aux autres, puis moi, je peux aller plus vite. Ah, c'est le début de la fin. Là, je vais commencer à faire des bêtises. Autre symptôme que je remarque, ma concentration, ma réflexion sont diminuées. Lecture superficielle. Ésaïe 29 dit, quand tu lis la parole, la révélation est un livre fermé. C'est un peu ça. Je commence à voir, parce qu'il faut aller vite. Et donc, c'est fermé. Je commence aussi à devenir pingre, avare. Comme le fils prodigue, je n'ai pas envie qu'on dépense. Mais même pour moi, je commence à devenir comme mes entrailles se rétrécissent. Je suis de moins en moins généreux. Je n'aime pas donner, je n'aime pas dépenser. Je dis non, je peux encore faire avec. Puis ça, c'est un symptôme chez moi. Puis mes émotions sont désordonnées. Il se passe toutes sortes de choses bizarres dans mes émotions. Et généralement, j'arrive à avoir une incapacité à remarquer la beauté de la vie. Je suis trop pressé pour la voir, beauté des personnes, des situations, des lieux. Une espèce d'insensibilité émotionnelle et sensuelle. Mes sens ne sont plus éveillés. Je suis juste mécanisé parce que je veux aller vite. Et arrive à ce moment-là une envie de changer d'air. Fuite vers autre chose, comme Elie va le faire. Et cette autre chose pourrait être aussi vers l'au-delà. Ça peut m'arriver à ce moment-là de dire, finalement, c'est que ça la vie. Pourquoi ne pas aller dans l'au-delà? Seigneur, reprends-moi. Et vous, c'est quoi vos symptômes? Je vous invite à regarder ça. Parce que si on ne les reconnaît pas et qu'on les laisse se développer, c'est là qu'ils nous amènent à « et si j'en finissais ?» Et c'est ça ce que va vivre notre ami, le prophète Élie. Jézabel, donc la reine, envoya un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant ça, s'est levé pour sauver sa vie. Il arrive à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y a laissé son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau, puis une cruche d'eau, mangea et but, puis se recoucha, la sieste, après le repas. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, le chemin est trop long pour toi. » Alors il se leva, mangea et but, puis avec la force qu'il a donnée, il est allé jusqu'à la montagne, et quand il arrive à la montagne, Dieu lui dit « Que fais-tu ici, Élie ?» Il dit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, les enfants d'Israël t'ont abandonné, je suis resté moi tout seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit « Sors, tiens-toi dans la montagne. » Vous connaissez l'histoire, il y a un vent fort et puissant qui passe, Dieu n'est pas dedans. Il y a un tremblement de terre, Dieu n'est pas dedans. Il y a un feu, Dieu n'est pas dedans. Ça, c'est le langage de l'ancienne saison d'Élie. Le prophète qui fait descendre le feu, le tremblement de terre, le jugement, les choses puissantes. Il est dans ce langage-là, mais Dieu n'est plus dans ces choses-là. Et là arrive un petit murmure doux et léger. Un silence. Dieu est devenu le Dieu des contemplatifs. Comme Mère Teresa, à qui on demandait, quand vous priez, qu'est-ce que vous dites à Dieu ? Je l'écoute. D'accord ? Et quand vous l'écoutez, qu'est-ce qu'il vous dit ? Il m'écoute. Avec une parole deux fois par mois, tu sais. Le reste du temps, c'est silencieux. Mais c'est là. Quand Élie entendit cette voix, donc il est sorti, puis le Seigneur lui redit, « Que fais-tu ici, Élie ? J'ai déployé mon zèle. » Il recommence. « Ils veulent tous me tuer, ils t'ont tous abandonné, je suis tout seul, etc. » Il cherche à m'ôter la vie. Et Dieu lui dit, « Reprends ton chemin par le désert. C'est une nouvelle saison, c'est une nouvelle mission, c'est une transition pour toi, quelque chose de nouveau s'en vient. » Alors, pour lui comme pour moi, sans sabbat, ça abat. C'est sûr qu'il est brûlé. Ça veut dire qu'il est tellement dans le feu qu'il a oublié, il est tellement dans les choses fortes qu'il a oublié qu'il est un vase fragile. Nous portons ce grand trésor dans des vases de terre. Parfois, d'oublier la fragilité de notre humanité, c'est ne pas être spirituel, mes amis. C'est d'être juste mystique, juste d'être, d'oublier que nous sommes un corps. Si on vous enseigne, nous sommes un esprit possédant une âme, habitant dans un corps. C'est pas vrai, hein? Mon esprit s'appelle Philippe Jauret, mon âme s'appelle encore Philippe Jauret, et même mon corps s'appelle Philippe Jauret. C'est le même, je suis un seul. Donc ici, il a oublié, et il est brûlé, son zèle devenu amer. Il y a un sentiment de solitude, je suis resté tout seul, ils m'ont tous abandonné. Et Dieu va lui répondre à ça, mais aussi la paranoïa. Tu sais, Seigneur, tous les enfants d'Israël t'ont abandonné, et ils cherchent tous à m'ôter la vie. Et du calme, Élie, c'est juste une petite femme qui cherche à ôter ta vie. Une petite femme, Jézabel, c'est pas tout le peuple d'Israël, c'est une femme. Mais à ce moment-là, vous voyez comment il a perdu les pédales, il a perdu le sens de la mesure, il a mal vécu sa transition. Donc face à cela, c'est quoi les recommandations de Dieu, la thérapie divine ? Oula, je vois que l'heure a bougé vite, je vais devoir accélérer. Est-ce que je peux avoir encore 15 minutes ou c'est pas possible ? 10 ? Ok, parfait, merci. Alors, la montre a bougé d'un coup là. Tout à l'heure j'ai dit, oh, j'en ai beaucoup de temps, puis finalement là, d'un coup j'en ai plus. La thérapie divine, c'est retrouve ton humanité. Je vais juste le développer un peu. Retrouve le silence, le murmure de Dieu. Retrouve le sens et retrouve la conscience de tes alliés. Il y en a 7000 avec toi. Retrouve ton humanité. Ça veut dire, puisque nous portons ce grand trésor dans un vase de terre, sois conscient de la fragilité de ce vase de terre. Dis pas seulement, peu importe ce vase de terre qui craque. Mais s'il craque, c'est lui qui porte le grand trésor. Le grand trésor va tomber à terre. En quoi ça va glorifier Dieu que tu meurs d'un suicide ou que tu meurs d'une dépression ? Ces derniers mois, deux parmi les trois plus... Ouais, j'aime pas dire ce mot des grands pasteurs ou grands hommes de Dieu, j'y crois pas à ça, sauf s'ils mesurent 2 mètres, mais sinon, de ceux qui avaient le plus d'influence sur ce mouvement de ces 10 dernières années, deux parmi les trois se sont suicidés. Et il n'y avait pas un péché caché dans leur vie. C'est pas ça. C'est juste qu'à un moment donné, on oublie que nous sommes des vases. On oublie notre humanité. Élie avait oublié son humanité. Il est brûlé. Alors, le Seigneur dit, dors. Et il s'est recouché. Jésus, lui aussi, dormait à l'arrière du bateau. Vous savez que le manque de sommeil peut coûter très cher. Au Canada, c'est jusqu'à maintenant, c'est 22 milliards par an, le manque de sommeil. 22 milliards de dollars par an. Le manque de sommeil est destructeur. Il fracture les mécanismes cérébraux. Le manque de sommeil empêche le renouvellement et la santé de nos émotions. La motivation générale se dégrade lorsqu'on dort mal. Les bienfaits du sommeil, quand on dort, nos défenses immunitaires se fortifient. Lorsqu'on dort bien, on fabrique des hormones. Le sommeil nous aide à récupérer sur les plans physiques, psychologiques, intellectuels. Même la mémoire se régénère durant le sommeil. Hey, trou de mémoire, comment tu dors ? Parce que dors, mange, prends soin de ton humanité. Ce n'est pas un message d'hédonisme ici, c'est un message de responsabilité pour que le petit vase de terre continue à porter le grand trésor de la bonne façon. Comme Dieu le veut, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Dors, puis après, le Seigneur lui fait marcher. Va prendre une marche, on va jouer ensemble. Parce qu'on a un Dieu joueur, jouant sans cesse sur le globe de la terre, jouant parmi les fils de l'homme, trouvant mon plaisir parmi eux. La récréation, c'est tellement important ici. Vous savez que jouer est tellement important pour nous que la puissance du jeu nous permet de ralentir notre vieillesse. Quelqu'un disait, puis c'est vrai, c'est pas parce qu'on est vieux qu'on joue plus, c'est parce qu'on joue plus qu'on devient vieux. Jouer est un besoin fondamental pour la santé mentale. Jouer augmente la créativité, freine le vieillissement, renforce l'estime de soi et le lien social. Sans jouer, l'esprit se mécanise et les émotions se dessèchent. Jouer, jouer, de rire, de jouer, ça c'est des notions tellement puissantes et importantes pour juste prendre soin de ce vase de terre, puis mange et bois. Regardez comment le Seigneur est venu amener un gâteau à Élie. Mange, je suis trop fatigué, mange, puis après tu vas encore avoir la force de continuer pour ta mission. Donc mange avec joie ton pain, bois gaiement ton vin, car dès longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Je ne parle pas ici d'un hédonisme, encore une fois, de l'amour du plaisir de la chair. Ce n'est pas nourrir la chair, c'est prendre soin de l'intégrité ou l'intégralité de notre être. Et quand quelqu'un se prive constamment, se prive constamment, se prive constamment, il se pourrait qu'un jour il craque et que ce jour-là, le vase casse et le trésor se répand à terre. Et c'est ça ce qu'on veut éviter. C'est ça ce qui a amené Élie à dire « J'en peux plus. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Je m'assois sous un genêt et je demande la mort. Le vase a craqué. » Alors, quand tu redeviens humain, c'est après avoir ralenti. Tu ralentis. Alors retrouve ton humanité, tellement précieux, dans cette rentrée, dans cette période de folie dans laquelle nous sommes, retrouvons, respectons la fragilité de notre humanité, parce que si nous ne la respectons pas, si nous ne prenons pas soin du vase, il va craquer. Deuxième chose que je voudrais vous dire dans la thérapie divine, c'est retrouve le silence. Après le feu, un murmure doux et léger, et Dieu était dans ce murmure doux et léger. Je viens de terminer, Isabelle a aussi un petit livre. J'aime beaucoup un auteur qui s'appelle Peter Scazzero. Si vous avez l'occasion de lire du Peter Scazzero, ses livres sont traduits en français. C'est excellent, excellent. Et là, il a fait un 40 jours de prière dans lequel 2 à 3 fois par jour, tu prends un moment qui commence toujours par 2 minutes de silence, puis il y a une petite méditation, un texte biblique, une question, une prière et 2 minutes de silence. Ça dure à peu près 20 minutes, matin et soir, matin et soir, matin et soir. Et des fois, tu peux faire 3 si tu veux. Mais au moins 2 fois par jour. Et on l'a fait 40 jours. Avec silence au début de la prière, silence à la fin. Et le soir, silence et silence. Tu peux faire 2 minutes, tu peux faire 3, tu peux faire 5. C'est toi qui vas mettre ta sonnerie ou ton téléphone. Mais il y a un tel renouvellement ici, dans nos émotions, dans la façon d'aborder Dieu. Je crois à la puissance de ce murmure divin, du silence qui nous permet de nous ressourcer, d'avoir les émotions qui vont être renouvelées ici. Également, Élie, retrouve le sens de tes actions. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ici, Élie? La grande question de Dieu. C'est ma question. Cette année, nous prenons une année sabbatique, Isabelle et moi, et on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait au Canada? Il y en a qui vont dire, ça fait 13 ans qu'on se le demande. Qu'est-ce que tu fais au Canada? Je dis, oui, ça m'a pris du temps, mais maintenant... Pour quelle raison on est là? Parce qu'il y a eu un temps où ça avait du sens, puis là, juste besoin de se demander pour quelle raison on fait ce qu'on fait. Pour quelle raison tu fais ce que tu fais? Et des moments, pour quelle raison je fais le travail que je fais? J'habite le lieu où j'habite. Je fais ce que je fais. De retrouver le sens, pas juste le comment on fait, mais retrouver le pourquoi je le fais. Se reposer la question du pourquoi. Ça nous rend fragiles, mais ça fait partie de la thérapie. Le jour où tu retrouves le sens, ce que tu fais... Alors ça devient plein, ça devient savoureux, ça devient réellement précieux pour toi. C'est tellement puissant ici de retrouver le sens. Puis enfin, retrouve tes alliés. Retrouve tes alliés parce que tu n'es pas seul. Élie, tu dis, ils m'ont laissé moi seul, mais j'en ai 7000 comme toi qui se demandent qu'est-ce qu'ils font tout seuls et qui sont fragilisés dans cette période. Tu n'es pas seul, il y a des alliés. Et c'est tellement important dans ces moments de transition de savoir que tu n'es pas seul. Quelle est la première question qu'on se posait quand on arrivait au collège pour la première fois ou quand on changeait de classe le jour de la rentrée, message de rentrée? Qu'est-ce qu'on se pose comme question quand on rentre dans le collège? Qui est dans ma classe? Sont où mes copains? Est-ce que j'ai des copains de l'année dernière ou des copines de l'année dernière qui sont avec moi dans ma classe? Ah, je suis rassuré, j'ai mes alliés. Dans la période de transition, d'avoir des alliés, c'est capital pour réussir cette période de fragilité et de transition. 7000 comme toi, parce que c'est pas bon de rester seul. Jésus avait ses alliés dans la maison de Marthe et Marie, des amis fidèles. Bien sûr, il y a la famille, puis de temps en temps, se faire des nouveaux amis, parce que ce sont eux qui nous permettent de traverser les limites et qui nous font grandir. Comme le psaume 133 nous dit, c'est là que le Seigneur envoie la vie. L'Église, ce n'est pas simplement des gens qui viennent s'asseoir les uns derrière les autres pour écouter un message, ce sont des alliés les uns des autres qui s'encouragent, qui se disent bravo, qui se félicitent, qui se donnent l'énergie qui les rend capables d'obéir, de traverser une épreuve, de remporter la victoire, de relever la tête une fois encore, de se relever d'une chute, et qui connaissent toujours l'amour de Dieu exprimé au travers des uns et des autres. Ça, c'est les alliés. C'est ceux-là qui font que le jour où tu es tout seul sous le genêt à demander la mort, tes alliés vont t'appeler, vont te relever. Tu vas ouvrir les yeux sur les 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant l'ennemi, qui ne cèdent pas à la dépression, au désespoir, et qui marchent dans une période plus noire que jamais sur le plan psychologique, dans ce que j'appelle le bonheur à contre-courant, le titre de mon prochain livre. Le bonheur à contre-courant. Je ne céderai pas au cynisme ambiant, je ne céderai pas à tout cela. Alors, tu auras aussi des nouveaux amis. J'arrive à la fin bientôt, mais ceci, j'aimerais quand même vous le raconter. Des nouveaux amis, ce n'est pas seulement les amis de l'Église. C'est qu'on a, il y a deux églises. Chacun d'entre nous, on a deux églises. L'Église de ceux qui sont chrétiens et l'Église de ceux qui ne le savent pas encore. Et ceux des chercheurs. L'année dernière, avec Isabelle, on a une plage favorite en Espagne. J'arrive sur cette plage, je vois René, le doyen de la plage. Lui, il est là depuis 45 ans sur cette plage. Donc, quand il arrive, tout le monde sait que c'est le chef. Puis René était assis, puis je regarde son sac. Évangile de Jean. Je dis, René, tu lis l'Évangile? Ben, quelqu'un m'a donné ça, puis je me suis dit, c'est le temps pour moi de lire, puis il a commencé à lire. Et on parlait un peu de ça. Puis il se lève, puis il boitait. Puis je dis, tu sais, René, moi, je suis pasteur. Ah bon, t'es pasteur? Ouais, je suis pasteur, puis il m'arrive quand je prie pour des gens, que des gens ne soient pas guéris, mais il m'arrive qu'ils soient guéris. Et si jamais je priais pour toi et que tu faisais partie des 60% qui sont guéris, ou je ne sais pas combien, qu'est-ce que tu risques? Ah oui, fais-le. Je viens, je prie pour lui. Il est complètement guéri. Il avait rendez-vous à Montpellier, depuis la plage en Espagne, parce que c'était un professeur d'université à Montpellier. Il avait rendez-vous pour... Son truc, il était réellement guéri, prouvé médicalement. Du coup, René, le doyen de la plage, a commencé à tourner sur toute la plage. Il a dit, hé, lui, là-bas. Il a prié pour mon genou, il m'a guéri. Alors j'arrivais, puis il y avait un gros moqueur. Quand je passais, il disait, bonjour ma soeur. Allez, salut Alain. Puis alors, on riait, puis Alain était tellement assoiffé qu'il a commencé à me dire, écoute, on peut en parler. Puis finalement, il a ouvert sa vie. Ma fille a des esprits mauvais qui la visitent la nuit. Est-ce qu'on pourrait prier pour sa libération? Puis, il y a eu rendez-vous avec sa fille. Et puis à ce moment-là, il y avait une dame sur la plage. Une de celles que moi, je dis, oh, celle-là, si je pouvais l'éviter, vraiment, j'ai passé des belles vacances. Une pipelette qui me dit, j'ai mal ici, puis j'ai mal là-bas. De l'autre. Moi, je m'en vais. Je me tourne à un moment donné, qu'est-ce que je vois? Isabelle qui parle avec cette dame-là, la pipelette. Puis elles s'en vont au bout de la plage. Puis Isabelle revient. Michel vient de donner sa vie à Jésus. Et Michel a suivi Jésus toute l'année avec Isabelle, des études bibliques, un Daniel Lien Alpha, une dame qui vient de l'île de la Réunion. Et puis, c'était assez extraordinaire. Moi, sur la plage, j'arrivais, je ne pouvais plus lire. Moi, les vacances, les livres, 14 livres, l'eau. Mais là, ils voulaient tous l'Évangile. Alors, c'était bien un jour sur deux, mais les autres jours, je vais aller à l'autre plage. Je vais à l'autre plage à côté. Puis là, je vois une jolie blonde. Moi, je suis sensible aux jolies blondes, hein. Je suis désolé, mais... On se regarde dans les yeux, puis waouh, un tilt. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Puis je la revois le lendemain, avec son mari et puis ses trois enfants, puis une belle famille. Alors je lui ai dit juste, vous avez une belle famille, hein? Je peux m'asseoir à côté de vous, monsieur? Ben ouais, une jolie blonde sur ma serviette. Ah, ben viens. Puis elle me dit, vous avez remarqué l'autre jour quand on s'est regardé, quelque chose s'est passé dans nos yeux? Je dis oui. Elle dit, ben je sais ce que c'est. Ah bon, ben dites-moi. C'était des kilomètres de ce que j'imaginais. Elle me dit, voilà. Moi, je me pose des questions sur la spiritualité. Quand je venais en route, je viens de la Hollande, j'ai demandé, Dieu, le chemin pour aller à toi, c'est New Age, comme disent mes amis, ou c'est Jésus, comme disait ma grand-mère? Je ne sais pas. Et j'ai dit, donne-moi une réponse. Et quand je vous ai vu l'autre jour, j'ai senti, c'est vous qui avez la réponse. Est-ce que vous voulez me le dire? Ce n'est pas possible. Alors, je lui ai raconté, ils sont venus avec son mari, toute la famille, on les a invités à manger à la maison, nous aussi la pizza, etc. Puis, juste un échange très très simple. Puis là, je commençais à lui dire, tu sais, Claudia, il faut que tu lises la Bible. Puis elle a commencé à lire la Bible. Elle me dit, je vais même prendre une retraite pour aller lire la Bible. Puis là, elle me dit, je prie Dieu, mais je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas comment faire. Alors, je lui ai dit, je vais prier pour toi, pour qu'il se révèle à toi. Puis quelques jours après, hello, dear friend, salut mon ami, dans un moment totalement inattendu, alors que je parlais à partir de mon cœur, tout d'un coup, c'est arrivé. Je l'ai vu, lui. Je l'ai vu. Et plein de petites lumières autour de lui. Je ne connais pas le nom de ces lumières, mais elles étaient des milliers de petites étincelles qui sortaient directement de lui. Alors je chante, je pleure et je lui parle in love to him, en amour pour lui. Extraordinaire! Et ça, ce sont les amis que le Seigneur va nous donner d'avoir dans nos vies. Alors, nous avons besoin d'alliés pour réussir et je vais demander aux stagiaires de bien vouloir approcher. Et ceux qui font nos alliés ici sont ceux qui vont apprendre dans nos vies à nous fortifier dans les liens. Dans ces liens-là, on va apprendre à dire à quelqu'un « merci ». On va apprendre à dire à quelqu'un qui a traversé une période difficile « bravo ». On va apprendre à dire à quelqu'un qui traverse la période difficile « courage ». Alors, vous savez, pour réussir la transition, cette transition-là, dans cette année, voilà ce que je vous dis. Retrouve ton humanité, retrouve le silence, le murmure devant Dieu, retrouve le sens, recentre-toi, retrouve conscience de qui sont tes alliés. Je veux prier pour vous, puis je donne le micro à nos stagiaires. Parce qu'il se pourrait que dans une année, d'ici, tu dises, j'aurais dû commencer à mettre en pratique ces messages dès ce jour-là. Saint-Esprit, merci que tu touches, tu as une parole pour chacun. Je te prie pour une belle rentrée, une année qu'on ne maîtrise pas, on ne sait pas, mais dans notre fragilité, dans notre ouverture à toi, merci de nous conduire. Merci pour cette magnifique église. Merci Seigneur pour les alliés qui sont là, qui vont se fortifier. Et je prie ce matin pour ceux qui sont là, pour ceux qui sont en ligne, ceux qui sont dans les maisons, pour que vous receviez ces paroles. Merci à quelqu'un, bravo et courage. J'aimerais vous encourager aujourd'hui dans les groupes de maison à faire ce qu'on vient de faire ici. Parce qu'une église, ce sont des alliés qui se soutiennent mutuellement. On aurait voulu le faire avec tous, mais dans les maisons, continuons. Continuez. Si vous n'avez pas pu participer, faites-le maintenant, plus tard dans la journée, mais faites-le. Choisissez quelqu'un à qui vous pouvez dire merci, un autre bravo, un autre courage. Que personne ne soit épargné. Que tout le monde ait été visé à un moment donné et lapidé par une parole de bénédiction. Bonne journée à tous. Merci encore pour votre accueil.